un ouvrage parrainé par Bernard Ier. Ça, c'est un clin d'œil au prince de Gréoux, à la principauté de Gréoux. Gréoux-les-Bains, des origines aux Templiers. Chercheur, historien Jean-Bernard Dalacqua a étudié pendant plusieurs années les légendes locales de cette commune, dont celle sur la présence des Templiers, jusqu'à présent niée par les spécialistes, entre guillemets, réfutant en bloc leur présence. Il avance et prouve dans cet ouvrage, par des documents d'époque, leur implantation dans ce village. L'étude des deux principales légendes, le trésor des roses d'Anjou et le trésor du Verdon, à Gréoux-les-Bains, ses recherches sur le château et ses particularités. Principauté de Gréoux-les-Bains, il y a même le sceau, les armoiries. Allez, j'accueille dans ce studio Jean-Bernard Dalacqua. Alors, bonjour Jean-Bernard, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Bonjour aux auditeurs et auditrices.
Et je vous accueille pour votre livre « Des origines aux Templiers, légendes et mystères ». Comment ça commence, la belle histoire d'avoir envie de raconter l'histoire ?
Bon, j'ai tout autant été intéressé par l'histoire déjà locale de ma région des Pyrénées, donc plus particulièrement des Cathares. Et j'ai déménagé à ma compagne à Gréoux-les-Bains en 2003, et j'ai trouvé intéressant de mettre à plat un peu toutes ces légendes, ces mystères, parce qu'il y avait beaucoup de on-dits et personne n'avait vraiment poussé bien avant les recherches pour quand même sortir quelque chose qui mette vraiment à plat toute cette histoire perdue ou méconnue de Gréoux-les-Bains.
L'étude des deux principales légendes qui sont évoquées dans ce livre, le trésor des roses d'Anjou et le trésor du Verdon à Gréoux-les-Bains. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est le trésor des roses d'Anjou ?
C'était un chercheur qui est maintenant décédé, qui avait la plupart du temps de sa vie fait des recherches sur le trésor du Haut-Verdon, le trésor templier du Haut-Verdon. Bon, c'était pas le seul, puisque c'est une légende qui est internationale, on pourra dire. Et n'ayant rien trouvé sur ce secteur du Haut-Verdon, il s'est rabattu sur Gréoux-les-Bains en pensant que cette commune était plus propice à recevoir ces fameux trésors que les endroits où on les cherchait jusqu'à maintenant. Donc il a fait des recherches et il a mentionné cette légende, ça serait le duc d'Anjou qui aurait fait transiter par Gréoux d'abord en charrette un trésor, et arrivé à Gréoux-les-Bains, ça serait les Templiers qui l'auraient transféré sur des mulets et qui seraient partis le cacher avec juste le lieutenant du duc et les Templiers. Alors là déjà, ça interpelle, puisqu'on voit mal si les hospitaliers tenaient le château laisser repartir aux mains des Templiers ce fameux trésor. Donc il y a plein de choses, et même à la limite, on peut en déduire que là où ils l'ont amené, les charrettes ne passaient pas, puisqu'ils l'ont transporté sur des mulets. Donc il serait toujours encore à proximité de Gréoux-les-Bains. Et ce qui est intéressant de ces deux légendes, c'est qu'elles se rejoignent dans le fait que c'est peut-être le même trésor. Parce que la deuxième légende, qui est la plus connue, des trésors templiers du Verdon, est partie d'un texte qu'a retrouvé un certain Marcola dans une bibliothèque familiale en Pologne. Et ce texte mentionnait que le trésor des Templiers était caché sous le château templier dans la vallée des Croix. Et c'est là où ils se sont aussi un peu trompés, parce que la traduction de l'ancien polonais de cette époque-là n'a pas été correcte. Alors, Marcola, lui, il s'est rabattu sur le domaine de Valcro, en pensant que Valcro, c'était la vallée des Croix, alors que c'était la vallée de la Craie. Donc déjà, au départ, les dés étaient pipés. Alors, il aurait pu tomber sur un trésor, mais aux dernières nouvelles, personne n'en a trouvé un sur cette région-là. Et si, en étudiant justement cette légende et ce morceau de papier qui mettait le code pour trouver le trésor, on se rend compte que c'est surtout plus Gréoux qui est mentionné, puisque à l'époque de cet écrit, il n'y avait que deux châteaux dans le sud de la France qui étaient considérés comme châteaux templiers. Je parle en tant que château, je ne parle pas de commanderie ou de ferme. Donc, c'est celui de Montfort, qui lui est avéré, les caves et l'ancienne prison datent vraiment des templiers. Après, bon, il a été reconstruit par les hospitaliers. Et à cette époque-là, le deuxième, c'était celui de Gréoux-les-Bains, qui a été considéré comme templier à cette époque-là. Donc, bon, Montfort, je sais que les Allemands ont cherché, bon, c'est une amie qui est la propriétaire, qui m'a fait vraiment l'honneur de me le faire visiter à plusieurs reprises. Donc, tout André a prouvé que le trésor, s'il y en a un, se trouverait à Gréoux-les-Bains ou à proximité de Gréoux.
Alors, on va mettre un peu de suspense. Je vous ai demandé d'amener, évidemment, vous avez amené le livre que vous m'avez donné juste avant, bien avant, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, voire quelques mois. Je vous ai demandé de ramener trois musiques. Enfin, un son et deux musiques.
Voilà.
Un bruitage et deux musiques. Par quoi est-ce qu'on commence dans ce que vous nous avez amené comme playlist?
Par le premier titre.
Il s'agit de Enrico Caruso.
Voilà, Les pêcheurs de perles de Bizet. Et j'ai choisi ce morceau pour un souvenir de mon grand-père, qui était franco-italien, donc de mes origines en partie. Et parce que c'était un de ses chanteurs préférés. Et plus c'est un souvenir surtout de mes autres grands-parents en général, quoi. C'est mes quatre grands-parents.
Allez, honneur aux ancêtres alors.
Honneur aux ancêtres.
Eh oui, pour un historien, les ancêtres, c'est important. Et puis, on continue l'aventure un petit peu et de ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Et puis aussi de mettre sur la piste les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral en racontant les deux principales légendes, le trésor des roses d'Anjou et le trésor du Verdon à Gréoux-les-Bains. Et puis on continuera un petit peu pour aussi présenter le personnage qui a vécu beaucoup d'expériences dans sa vie et qui assume complètement d'écrire un livre sur les origines. Des origines aux Templiers, légendes et mystères.
Pour le personnage, ça risque d'être un peu long. Oui. Je ne pense pas qu'on ait assez de temps.
On fera un résumé court.
On va dégrossir un peu. Mais...
Allez, on écoute Enrico Caruso, Les pêcheurs de perles. C'est parti.
Oh!
Quel magnifique morceau avec. On entend la pointe du saphir qui grésille. Là, c'est même pas un saphir, c'était une pointe, je crois.
Ah oui, là, c'était.
C'était le gramophone.
Les vieilles machines.
Les vieilles machines, oui. Vous avez eu une démarche historique à partir de la famille ou c'est une passion qui est venue comme ça au fil des ans?
Ça a été un concours de beaucoup de circonstances car mon père a acheté une vieille bâtisse dans une petite vallée d'Ariège, le village s'appelle Capoulet. Et cette bâtisse, elle était surnommée la Forgère. Et parce que c'était l'ancienne forge de la commanderie hospitalière qui était juste de l'autre côté de la rue. Et ce qu'il y avait d'intéressant, qui m'a interpellé de suite, c'est que juste à proximité, on dira, il y a un château qui est très célèbre, qui s'appelle Montréal de Sceaux, qui aurait hébergé un temps le Graal. C'était cathare. Et alors, ce qui devient intéressant, c'est que cette commanderie hospitalière, alors qu'il n'y avait pas de parité chez les hospitaliers entre l'homme et la femme, a été commandée par une femme. Alors, je pense qu'il n'y a eu que deux cas dans toute l'histoire des hospitaliers où une commanderie a été. Alors, est-ce que c'était l'influence cathare? Ça, bon, on ne le saura peut-être sûrement jamais. Mais bon, ça a commencé comme ça. Donc, je me suis intéressé à ce château.
La passion est née à cause d'un lieu, en fait.
Voilà, le lieu qui
grâce à un lieu.
Qui m'a poussé à étudier une des fresques cathares, justement, de ce château Montréal de Sceaux. Et des cathares, ça m'a amené au mystère de Rennes-le-Château, mais pas du tout par rapport à la Bessonnière, qui est le plus connu des abbés, le curé au milliard, comme on l'appelle, mais parce que c'est les menhirs de la région qui m'ont amené à Rennes-le-Château par rapport au décryptage de la fresque de Montréal de Sceaux. Ouais, c'est tout un cheminement, et bon, j'avais écrit une monographie dessus, qui n'a jamais été publiée, vraiment, parce qu'elle était trop technique. C'était réservé vraiment qu'aux initiés. Donc j'en ai fait un roman un peu historico-romanesque où j'ai mis dedans quelques éléments. Et ce roman s'appelle Saliman le Sage.
C'est un ouvrage d'ailleurs qu'on peut commander et qu'on peut trouver.
On peut le trouver actuellement, même le dernier sur les Templiers, à la presse Rue Grande à Gris-Oulévin. Bon, actuellement, vous ne jetez pas pour le commander parce que il est en rupture de stock, je suis en train de faire la réédition. Donc
bon, ça a bien marché alors.
À première vue, oui.
Alors revenons aux deux principales légendes dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le trésor des roses d'Anjou et le trésor du Verdon, avec cette particularité d'être à la recherche des mots. J'ai remarqué que vous essayiez de comprendre le sens des mots, notamment tout à l'heure,
voilà,
quand vous parliez des
lieux,
croix.
Voilà, l'étymologie des noms de lieux, de fermes, parce que la base quand même des recherches, c'est au départ c'est ça, c'est aller sur le terrain, essayer de décrypter les lieux, les noms des lieux. Et alors mon but premier à travers cette démarche était d'essayer de trouver une correspondance avec ce qu'on aurait pu associer aux Templiers. Il faut savoir qu'il y a un lieu à Gris-Oulévin qui s'appelle La Cavalerie, qui est cité dans un ouvrage de Falck de Besor sur les Templiers de Gris-Oulévin, où il cite plusieurs fermes qui, suite à l'arrestation des Templiers, elles ont été pillées parce qu'ils auraient eu travaillé où ils étaient templiers. Donc le roi de France est venu tout saisir. Et la cavalerie, on le retrouve en France, en Aveyron, et c'est créé par les templiers. Ça, alors on dit que c'est un rapport avec les chevaux, mais par rapport à l'histoire, les lieux dits la cavalerie sont des lieux templiers. Et il est intéressant aussi de remarquer que il y a trois fermes sur Gris-Oulévin qui ont justement été saisies parce qu'ils auraient été templiers ou travaillés avec, qui se situent aux trois axes principaux qui mènent à Gréou. Vous avez Valongue, qui était Valis Longa, l'ancien français, qui se trouve à côté de la route de Saint-Julien. Bastille de Blanche, qui, elle, se situe, surveille la route de Vinon. Et la Cavalerie, qui, elle, surveille la route de Manosque. Si vous voulez, c'était. Alors, c'est quand même assez intriguant que ces trois commanderies, on va dire, ferment. Cadenas, si vous voulez, l'entrée sur Gréoux-les-Bains. Comme une surveillance non officielle ou officielle, mais oui, c'est alors déjà, bon, ça c'est intéressant quand même à mentionner, parce que de tout temps, Gréoux a été quand même un carrefour de l'histoire. Si on part de l'âge du fer, avec les Celtes gaulois, les Romains, on se rend compte que sur Gréoux, c'est vraiment un point stratégique. Et alors, stratégique à tous les niveaux, parce que même au niveau géologique, quand on ne peut pas parler de Gréoux sans parler des termes, ce qui est intéressant, et c'est là où c'est un peu l'anecdote, c'est que les eaux thermales de Gréoux sont parmi les plus chaudes des termes du sud-est de la France et du sud presque en général. Et là, j'ai fait des recherches au niveau de la géologie du sous-sol. Et on se rend compte qu'il y a une remontée de magma qui se crée juste au niveau du village de Gréoux. Et après prise de contact avec des spécialistes, des vulcanologues et tout, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer une différence sur les zones Hartmann et Curie au niveau du château, qui sont des zones telluriques en surface et en sous-sol, où il y a un décalage de parallélisme au niveau de ces zones. Et c'est peut-être ce magma qui se rapprocherait qui créerait une interférence électromagnétique. C'est peut-être pour ça aussi que certains y voient parfois des fantômes ou des boules lumineuses. Bon, après là, moi, je n'ai pas étudié ce domaine-là. Moi, je reste avec du concret, si on peut dire, historique.
Revenons au concret historique. Si on lit votre livre des origines aux Templiers, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression de suivre une enquête. Vous nous faites participer au déroulement des différentes investigations et puis des conclusions que vous en tirez.
J'ai voulu réaliser, cet ouvrage est une présentation d'une partie de mes recherches et découvertes. J'ai voulu l'écrire avant que le savoir local disparaisse. J'ai été aidé par Claude et Monique Roux qui m'ont fourni, c'est un peu une encyclopédie encore vivante sur l'histoire de Gréoux, d'autres chercheurs. Et ça m'a quand même permis d'avancer. Et je voulais le mettre par écrit pour que ça profite à tout le monde, puisque bon, ces personnes, c'est pas que je récupère le flambeau, puisque eux, ils ont fait ça toute leur vie. Après, il y a d'autres chercheurs comme Daniel Boursolot qui s'intéresse à une histoire un peu plus connue, qui elle est experte de l'histoire, on va dire, connue et reconnue de Gréoux. Mais alors, moi, je voulais m'intéresser justement à la partie disparue et de mystère. Tout en mettant, en couchant en noir et blanc, les recherches qu'avaient fait mes précédents confrères. Donc, alors c'est vrai que c'est un cheminement étape par étape, où je pars vraiment des origines de Gréoux pour comprendre quel est l'intérêt qu'il y avait eu à vraiment à habiter ce point précis de la région. C'est pour ça, mais tout est lié. Quand on fait des études sur la géographie ou l'hydrologie, ça permet aussi de démonter ou d'affirmer la légende du tunnel. Tout se recoupe indirectement. Donc, on est obligé d'être quand même assez diversifié dans ses recherches hydrologiques, géologiques, historiques, les recherches dans les archives et sur le terrain. Parce que, bon, moi, mon plus grand plaisir, c'est surtout d'être sur le terrain plutôt que d'être à travers la poussière des vieux livres. Il faut le faire, mais c'est pas quand même mon trip.
On peut se procurer votre ouvrage, donc je rappelle, Jean-Bernard Delacroix, Gréoux-les-Bains, des origines aux Templiers, légende des mystères. Vous nous rappelez où on peut se procurer ce livre?
À la librairie presse rue Grande à Gréoux-les-Bains.
Oui. Et j'ai une question. Vous nous avez mis l'eau à la bouche en nous racontant le trésor des Roses d'Anjou et le trésor du Verdon, et puis les différentes anecdotes qui vous ont poussé à écrire ce livre, et puis tout ce qui compose cette curiosité et puis cet amusement aussi, parce que je sens qu'il y a aussi du plaisir à,
il faut qu'il y ait
à jouer
plaisir,
avec tout ça.
Parce que si on ne prend pas plaisir à faire ça, bon, on décroche assez rapidement.
Alors, la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous avez trouvé le trésor ou pas ?
Alors, c'est pas que je vais taper à côté, mais il y a un deuxième ouvrage qui est en cours. Peut-être que cet ouvrage vous donnera la solution. Et peut-être bon, que si je ne le sors pas, c'est que je suis au Bahamas, c'est que je l'aurai trouvé.
D'accord, on va vous suivre de près alors.
Bah, pas trop de près parce que...
Alors, revenons aussi sur la, quand on regarde votre ouvrage, il y a, on va en venir un petit peu à une particularité d'une, bon, sur la dernière de couve, on voit un ouvrage parrainé par Bernard Ier, prince de Gréoux, et puis on voit une armoirie.
Les armoiriers, oui.
Voilà, principauté de Gréoux-les-Bains. On fait une parenthèse parce que ça a un rapport, ça reste dans...
C'est toujours de l'histoire.
Dans, dans le fait de créer une principauté...
Mais là, cette micronation, j'ai fondé cette micronation, justement parallèlement à l'ouvrage, pour, si vous voulez, la principauté sert de... C'est un levier de communication. Je cherchais un moyen de faire parler un peu de mes recherches et des recherches des anciens. Et j'ai trouvé ce clin d'œil assez intéressant à traiter. Alors au début, bon, on m'a pris pour le fou, le prince fou. bon, ça me fait encore sourire, mais je pensais, par contre, je ne pensais pas que ça prenne autant d'importance. Et surtout au niveau international maintenant. Je suis pas mal sollicité de partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un gouvernement avec des ambassadeurs et des consuls. Mais pas plus tard que ce matin, je viens de nommer mon ambassadeur au Brésil, Guilherme Porto, qui lui est en connexion aussi avec l'annexe du Vatican. Mais vous voyez, bon, ça, j'arrête pas en ce moment. J'ai même peut-être plus assez de temps à me consacrer à la vraie recherche historique, tellement ça me prend du temps au niveau du développement de la principauté.
Je me suis permis de parler de cette principauté parce que vous y faites référence, notamment sur la dernière de couverture, on voit un ouvrage parrainé par Bernard Ier. Donc, c'est qui ce Bernard Ier ?
Bernard Ier, c'est moi. Tout simplement, c'est moi. J'ai pris Bernard parce que, au niveau de l'étymologie du nom, c'est pour ça que sur les armoiries, il y a un ours rouge. Parce que l'étymologie, ça veut dire ours fort. Mm-hmm. Donc, ça me caractérise un peu, puisqu'on me surnomme l'ours des Pyrénées, même en Provence. Et les couleurs sont les couleurs de ma famille noble du sud de la France, auquel j'ai rajouté l'azur, qui lui symbolise le verre d'eau.
Donc, un ouvrage parrainé par vous-même, Bernard Ier, prince de Gréoux, et puis bon, on reviendra sur cette histoire de principauté de Gréoux-les-Bains, évidemment. Je vous invite à lire cet ouvrage que vous pourrez retrouver, donc, comme
vous
l'avez dit,
à la
presse Rue Grande, à Gréoux-les-Bains. Donc, Jean-Bernard Dalacqua, Gréoux-les-Bains, des origines aux Templiers, légendes et mystères.
Il faudrait quand même... on va s'arrêter deux minutes sur quand même plus que les légendes dont je parle dans cet ouvrage, pour parler des Templiers. Il faut mettre à plat un peu tout ce qui a été dit et mal dit et non dit et nié ou affirmé. J'explique dans cet ouvrage... ma démarche pour arriver à prouver qu'ils y étaient ou qu'ils n'y étaient pas. Alors d'abord au niveau de la commune et après au niveau du château. Toutes mes recherches ont abouti au fait, et j'amène les preuves de cet ouvrage, que les Templiers étaient à Gréoux. Ça, on ne peut plus le nier. Là, j'invite quiconque à vouloir me prouver le contraire. Il n'y a aucun souci, je veux bien discuter. Ça, on le prouve. Il reste encore le mystère des Templiers au château même. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une histoire compliquée. Jusqu'en 1308, on ne sait pas qui gérait ce château. On dit que c'est le comte de Provence Charles II qui le légua aux hospitaliers, mais il légua pas le château, il n'est jamais mentionné dans le legs, c'est la seigneurie. Tout en sachant qu'à Gréoux, il y avait une multitude de co-seigneurs. Donc peut-être qu'avant 1308, le château était administré ou géré par les Templiers. Ça, on ne peut pas ni l'affirmer, ni l'affirmer, ou le démontrer. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Charles II n'était pas vraiment propriétaire du château, puisqu'il n'en avait que le majus dominium. C'est une sorte de droit de justice. Mais jamais dans les textes, il est prouvé que le château lui appartenait. Il avait la seigneurie, comme d'autres en même temps que lui. Donc on sait qu'à cette époque-là, les Templiers tenaient le péage de Gréoux. C'était l'économie la plus importante pour l'époque. Ça, et je le prouve, en amenant un parchemin qui a été rédigé par le commandeur de Puymaçon, qui demande aux représentants du roi qui était à Moustier de récupérer le péage des Templiers à son propre nom, pour la commanderie hospitalière. Ce qui n'a pas été fait ailleurs, parce que le bailli de Moustier, il l'a récupéré pour eux, pour le roi de France. Donc il a même pas. Mais il est bien mentionné le péage des Templiers de Gréoux-les-Bains, là-dessus. Et j'ai retrouvé un autre document où, par contre, il y avait une donation à Notre-Dame. Alors là, c'est plus compliqué de retrouver exactement le lieu-dit, parce que dès Notre-Dame, sur Gréoux-les-Bains, il y a plusieurs lieux-dits. Il y a la grotte Notre-Dame, il y a le ruisseau Notre-Dame. Il y a Notre-Dame en dessous de la Dame des Œufs, de Notre-Dame des Œufs qui pourrait aussi correspondre, où là aussi qu'ils ont récupéré des parcelles de terre. Il peut être même une ferme. Mais bon, là, ça sera sûrement dans le deuxième ouvrage. il faut que je creuse un peu plus. Bon, pour un chercheur, creuser, ce n'est pas un gros souci. Mais
Donc, au niveau des Templiers, vous vouliez faire un petit peu le point sur ce qui se dit et sur la question de la présence des Templiers à Gréoux-les-Bains.
Je vais mettre à plat un peu toutes les données et surtout même amener celles que j'ai trouvées personnellement au niveau des archives, parce que j'étais confronté à de gros soucis par rapport aux cotes d'archives. Falquebezor en cite beaucoup. Beaucoup de chercheurs citent des cotes d'archives. Mais il faut savoir que ces comptes d'archives ont disparu. Ou Avignon, les dossiers sont vides. Il y avait les archives d'Avignon qui étaient parties aux archives de Malte. Malte les avait transférées à Naples. Et à la Seconde Guerre, ça a été bombardé et tout a disparu. Les seules que je retrouve comptes qui seraient intéressantes à consulter, le seul problème, c'est que c'est un vieux latin chartriste. Donc là, ça dépasse mes compétences. J'arrive à traduire quand même un peu le latin, mais le latin de moine, c'est très très compliqué. Et ces archives, il m'a été répondu qu'elles se trouvaient aux archives secrètes du Vatican. Et alors, le Vatican m'a invité à les consulter si j'étais apte à les traduire, ce qui n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas encore allé. Je cherche une personne qui pourrait participer à retrouver justement ces fameuses côtes, qui là contiendrait des courriers d'échange avec les Templiers de Gréoux-les-Bains. Donc, alors déjà que j'amène leur présence, mais pour peu qu'ils soient mentionnés le château, on aurait la certitude qu'à un moment donné, les Templiers étaient au château. Ils n'étaient peut-être pas propriétaires, mais il y en avait peut-être une gérance ou une copropriété, étaient co-seigneurs. Voilà, si vous voulez, le futur, les futures recherches qui sont envisagés.
On n'oublie pas donc de consulter déjà le premier ouvrage qui est déjà sorti avant de consulter le deuxième. Donc Jean-Bernard Dalacqua, Gréoux-les-Bains, des origines aux Templiers, légendes et mystères. On va faire une autre pause musicale. Tout à l'heure, on a été du côté des ancêtres avec Caruso, les pêcheurs de perles. Vous nous avez parlé de votre goût de vous intéresser à vos ancêtres et de leur rendre hommage, si j'ai bien compris.
Oui, c'est un peu ma démarche, oui.
Une autre démarche, si je vous dis, on va faire un quiz, si je vous dis guerrier au pluriel et hymne français du rugby, vous me répondez quoi ?
Un projet que j'ai mené à bout, qui me tenait quand même assez à cœur. Comme bon, à temps perdu, j'écris quelques mêmes poèmes et d'autres ouvrages sur le sport. J'avais écrit un texte par rapport au rugby. Et j'ai voulu le mettre en musique et le faire chanter par un ensemble vocal. J'ai trouvé un compositeur qui est Patrick Klett, qui est aussi chef de chœur de l'ensemble vocal de Cannes. Donc on a fait ce projet, qu'on a fait enregistrer à un studio avec 60 choristes dans les studios à Draguignan. Et on a sorti ce CD qui est, bon, c'est assez intéressant, c'est un clin d'œil à ma passion du sport pour le rugby.
Voilà, et ben on va écouter cet hymne, c'est simplement
Oui.
aussi pour même tout simplement montrer aux auditrices et aux auditeurs de Fréquence Mistral qu'il y a des personnages haut en couleur qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi qui ont fait plein de choses dans leur vie, notamment du sport. Le rugby, c'est quelque chose d'important pour vous. Et peut-être on peut faire un pont avec le château de Gréoux et puis toute cette passion pour l'histoire, parce que tout ça raconte des histoires de vie, des rencontres, et puis des guerriers, hymne français du rugby. Le rugby, il incarne vraiment quand même ce combat, cette stratégie.
Ça, et en plus, bon, j'ai essayé de mettre les paroles, ce ressenti. Bon, quand je dis guerrier, c'est en tant que combattant sportivement. C'est pas une guerre. Le terrain, le gazon n'est pas une guerre. Au départ, c'est un jeu. Mais dans les paroles, j'ai quand même essayé de donner cette émotion-là de ce sport qui vous prend aux tripes. Voilà.
On l'écoute?
Écoutons.
On l'écoute et on se retrouve juste après. Guerrier, hymne français du rugby, c'est un projet qui a été initié par Jean-Bernard Dallacqua avec un ensemble vocal. Allez, hop, on l'écoute et on se retrouve juste après.
Thank you.
Vous êtes dans le magazine culturel de Fréquence Mistral. Allez, la suite de ce magazine culturel avec notre invité Jean-Bernard Dallacois. Il est chercheur historien, il a écrit « Des origines aux Templiers, légendes et mystères » et maintenant il va nous parler de la principauté de Gréoux-les-Bains et là ça se passe aujourd'hui. Quels sont donc ces tirs qui viennent jusqu'à nos ouïes ?
C'est vrai que ça peut choquer, parce que c'est sûr que c'est assez inattendu dans une émission comme celle-ci. Mais c'est un clin d'œil à mon ami Yuri Kostrov, qui est le roi de la maison royale d'Ukraine, qui m'a fait l'honneur de me faire grand-duc de la maison royale d'Ukraine. En plus de mon titre prince, et ça a été un échange de titres pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Et vu le contexte géopolitique et la guerre, ces tirs de rafale AK-47, c'est un clin d'œil à ce qui se passe au niveau des infos dans son pays. Je suis souvent en contact avec lui, sauf quand il est dans les abris antiaériens sous les bombes. Il a eu la chance avec sa famille d'être, on va dire, en partie épargné. Et voilà, c'est une rencontre très intéressante, et cela grâce à la principauté. Je ne pensais pas qu'au départ, l'axe principal de la principauté était les recherches historiques et de la communication. Le prince est apolitique. Le citoyen Jean-Bernard a ses idées, mais le prince est apolitique. On est ouvert à tous les historiens, qu'on soit pour ou contre, au niveau de leur théorie, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une ouverture à tout le monde et au monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé des ambassades un peu partout, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à Monaco, j'ai même chez le cousin, on pourra dire. Et si vous voulez, ma démarche, je suis assez satisfait, c'est de l'autosatisfaction peut-être, mais au niveau communication, a bien marché. Et ça me permet de développer mes recherches, surtout historiques, et ça m'ouvre quand même à pas mal de monde de chercheurs, de scientifiques. Et à cela, le but est atteint.
La principauté, on l'a compris, dedans il y a un message pacifiste.
C'est pacifique. Alors, c'est vrai qu'après la rafale de AK-47, on pourrait penser le contraire. Effectivement. Mais en plus, bon, j'ai voulu mettre une rafale car je fais du tir sportif. Je ne chasse pas. Et en plus, ça montre un peu ma passion, qui est aussi la passion du tir. Mais là-bas, la principauté n'a pas d'armée. À la limite, le vigile, c'est moi. Je suis multicarte au niveau de la principauté. Je fais jardinier, vigile.
On a bien compris la symbolique et puis cette envie de communiquer, justement, pour parler d'histoire. Ça peut ouvrir des portes, peut-être, et rencontrer des gens hauts en couleur.
Oui, mais c'est bon. J'avais pas besoin de la principauté pour rencontrer des personnes sympathiques. La preuve, je vais faire une émission dans votre belle radio, qui est très sympathique.
Merci.
Et c'est un plus. C'est un peu complémentaire à tout ce que je fais, que ce soit au niveau relationnel, recherche, historique, c'est complémentaire.
Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Il y en aura d'autres. Évidemment, il y a un second ouvrage qui va être publié, qui va être un peu la suite de celui-ci, si j'ai bien compris.
Oui, mais il sera beaucoup plus visuel, parce que Monsieur Claude Roux, dont je vous parlais tout à l'heure, m'a communiqué des photographies d'époque, qui prouve encore plus ma thèse de ce qu'on appelait le tunnel sous le château, et en fin de compte, une crypte. Donc c'est pour ça, bon, je sais qu'il y a un projet de réhabilitation du château, une réhabilitation privée, que j'ai invité quand même avant à faire des fouilles préventives avec les technologies modernes, puisque Sandrine Claude avait fait, l'archéologue d'Aix, avait fait une des recherches pour sa thèse, mais avec des moyens minimes. Donc maintenant, on a assez de technologies pour, sans dégrader, pouvoir faire des recherches beaucoup plus poussées. Et c'est aussi, je donne des indications pour pas que ce soit des recherches un peu à l'aveugle. Et le deuxième ouvrage mentionnera justement toutes ces précisions et surtout en apportant du visuel à toutes ces recherches.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Bernard Dallacqua. Le mot de la fin.
Alors, je voudrais indiquer que le dimanche 15, j'invite les gens qui sont intéressés par les recherches de Gréhou sur la cour, le parvis du château Gréhou-les-Bains à partir de 16h. S'ils veulent qu'on discute de l'ouvrage ou de l'histoire de Gréhou, je ferai une sorte pas de conférence puisque je ne suis pas conférencier de métier, mais je ferai une présentation de l'ouvrage et j'expliquerai ce qu'il y a dans ce livre.
Et bien évidemment, vous retrouverez cette information sur les ondes de Fréquence Mistral et puis sur le site de fréquencemistral.com. Cette entrevue va être podcastée, on retrouvera tous les liens pour vous contacter et suivre votre actualité.
Voilà, parce que bon, on peut me contacter sur la page Facebook de la Principauté. La Principauté de Gréhou, ou directement sur le site de la Principauté, Principauté de Gréhou-les-Bains. Bon, en général, maintenant, si vous tapez Principauté de Gréhou, vous aurez tous les liens qui vont apparaître. Et je souhaite une bonne journée à tous les auditrices et auditeurs.